Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois au micro de Canal Académie l'historien Fabrice d'Almeida. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du nazisme et directeur de l'Institut d'Histoire du temps présent. Et nous allons réaliser ensemble une série d'émissions, une série de portraits de personnalités. Première série, celle consacrée aux dignitaires nazis, votre grand domaine de prédilection, aux personnalités donc du Troisième Reich. Et pour commencer, nous avons choisi Joachim von Ribbentrop, qui était donc le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Qui fut Joachim Ribbentrop et avant tout, quelles sont ses origines ?
Ribbentrop, c'est un personnage qui est issu d'une famille d'origine aristocratique. C'est-à-dire qu'au départ, dans sa famille, il y a une branche nobiliaire, mais lui, il est issu de la branche puinée, donc celle qui n'hérite pas du titre et qui donc, en quelque sorte, va perdre sa noblesse. Il va retrouver, grâce à une adoption fictive par une de ses tantes, le fun qui lui était nécessaire pour manifester aux yeux du monde une origine aristocratique. Donc ce sera Joachim von Ribbentrop après le début des années 20, puisque je crois que son adoption date de 1922. Donc à cette époque, on peut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est issu de la bonne bourgeoisie allemande. Ses parents vont travailler notamment aux États-Unis, au Canada, ce qui fait qu'il parle un anglais extrêmement fluide, et il va ensuite essayer de faire une carrière diplomatique dans un premier temps. C'est ce qui va être en quelque sorte son premier terrain avant ensuite de se décider à rentrer dans les affaires. Et il va rentrer dans les affaires, on peut dire, de deux manières. D'abord lui-même en développant une entreprise d'importation de vins et spiritueux en Allemagne, ce qui fait que Ribbentrop, on peut dire, est le grand pourvoyeur de champagne de l'Allemagne des années 20 et des années 30. Et il y a deux champagnes qu'il diffuse très largement, le Pommery, dont il est le représentant officiel, et le Tétinger, dont il est un des importateurs. Donc c'est une première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est qu'il va épouser Anneliese Henkel, qui est une jeune femme originaire d'une famille de la haute bourgeoisie, et dont le père est un personnage extraordinaire qui a fait fortune en créant le Sekt allemand, c'est-à-dire le mousseux allemand. Et évidemment, Ribbentrop va jouer de cette casquette qui lui donne une fortune considérable pour commencer à agir en Allemagne, d'abord, disons, dans une dimension mondaine et puis ensuite dans une dimension plus politique. Il ne rentre pas tout de suite au parti nazi, il faut bien le dire, il commence comme national-conservateur.
Il a des prédispositions idéologiques justement à se diriger vers le nazisme ?
On peut dire qu'il y a un aspect générationnel, c'est-à-dire qu'il est marqué, comme beaucoup de gens de sa génération, par la Première Guerre mondiale. Donc ça le conduit vers le nationalisme, vers le patriotisme. Et puis ensuite, il y a, disons, une dimension un peu opportuniste. C'est-à-dire que comme il vient relativement tard au nazisme, qu'il y vient vers la fin des années 20, eh bien à ce moment-là, on peut dire que le parti recommence à avoir le vent en poupe. Et donc, petit à petit, à partir de 1930, s'impose l'idée que c'est lui qui va l'emporter. Et donc, c'est ce qui fait que c'est à ce moment-là, entre 1928 et 1930, qu'il se rapproche, puis que finalement, il décide qu'il va devenir un membre du parti nazi. Et que donc, on peut dire que c'est un relativement tard venu par rapport aux autres hauts dignitaires du régime nazi.
Il se fait remarquer rapidement par Hitler ?
Alors, il se fait remarquer d'abord parce qu'il le reçoit. Et ensuite, parce qu'il le reçoit bien, c'est-à-dire avec une élégance de table, un raffinement, disons, de goût qui va intéresser Hitler. Mais ensuite, plus précisément, il va servir de tête de pont à Hitler dans les négociations avec les conservateurs allemands. Et c'est notamment dans sa villa, à Dahlem, qu'a lieu, à la fin de l'année 1932, la grande discussion avec Oskar Lindenburg, le fils du président Lindenburg, la grande conversation qui va finalement amener le président Lindenburg à nommer Hitler à la chancellerie. C'est-à-dire qu'il est au cœur de la négociation entre les élites conservatrices et les élites montantes du national-socialisme. Il est au cœur de la négociation pour sceller l'alliance de ce qui va finalement devenir la base politique du Troisième Reich.
Il a une personnalité qui se prête justement à la diplomatie, à la négociation.
Oui, il a un côté très ouvert, très, disons, homme cultivé, homme de culture. On le dit peu, mais par exemple, il commence dès les années 20 à avoir une collection d'œuvres d'art et à décorer d'une manière relativement, alors peut-être pas avant-gardiste, mais relativement à la mode, sa villa du quartier chic de Dahlem au sud de Berlin.
Donc, peut-être un peu plus d'éléments sur sa personnalité, sur sa façon d'être. Est-ce que c'est un personnage qui a du charisme, qui en impose?
Alors, ça va évoluer au fil du temps. Le Ribbentrop du début, c'est surtout quelqu'un qui est posé, qui a une grande capacité de séduction. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de charisme en termes d'entreprise politique, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer, par exemple, par les baptêmes électoraux. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des grandes campagnes électorales. Ce n'est pas ça. En revanche, il a une grande séduction en tête-à-tête, une grande capacité à rencontrer des familles de la très haute noblesse britannique, notamment, puisqu'il va être ambassadeur à Londres. Il va les rencontrer, il va savoir comme ça approcher les hautes élites européennes, les élites anglo-saxonnes, et les convaincre qu'il n'y a pas une telle différence qu'ils le croient entre le nazisme et grosso modo les démocraties. Il a une tendance comme ça à avoir une capacité à atténuer le message, à le rendre acceptable, le message national-socialiste. Donc ça, c'est sa grande force, sa capacité à séduire en tête-à-tête. En même temps, on va lui reprocher très souvent, à partir de 1936-1938, on va lui reprocher d'être très imbu de sa personne, d'être en quelque sorte Stolz, fier, hein, comme on dit en allemand, un peu prétentieux, hein, donc quelqu'un qui ne serait pas d'un commerce agréable. Les gens de son ministère le regardent aussi, à pareil 1938, en le redoutant. On craint son autorité, on sait qu'il peut être extrêmement brutal, on sait qu'il peut prendre des décisions tranchantes. Au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas non plus froid aux yeux quand il a pris une décision. C'est pas un hésitant.
Alors, avant d'en venir à la politique étrangère, peut-être un mot sur sa place dans le dispositif du Troisième Reich, son pouvoir, son rôle dans les années 30.
Oui, ça, c'est une question qui est toujours difficile en matière de national-socialisme. En gros, il faut rappeler un petit peu les différentes thèses qui étaient en présence dans le milieu historien. Il y avait une première thèse qui a dominé pendant très longtemps, qui était l'idée, en gros, que Hitler tenait tout. Hitler, c'était une sorte de super monarque qui était capable à la fois de tenir la diplomatie, de s'en occuper, de tenir la politique intérieure, de tenir la sécurité, de tenir l'armée, de tenir même l'industrialisation du pays. Donc il y avait cette idée qu'il n'y avait aucune information qui lui échappait, qu'il savait tout, qu'il analysait tout, qu'il dirigeait tout. Ensuite, il y a une deuxième hypothèse qui s'est levée, qui a été l'hypothèse de ce qu'on a appelé la polyarchie. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs institutions, en quelque sorte, qui avaient détenu le pouvoir et s'étaient coordonnées, entretenues entre elles, parfois avec conflit entre elles, concurrence au sein du régime, et que donc on avait affaire à un régime où il n'y avait pas un seul détenteur absolu de tout le pouvoir, mais des institutions qui, en quelque sorte, s'entendaient et composaient une sorte de fédération de pouvoir. Il y a ensuite eu, on peut dire, une dernière hypothèse qu'il a emportée, qui maintient un petit peu les deux. L'idée un petit peu que le régime, même s'il a des institutions concurrentes, va travailler, c'est le terme de Jan Kershaw, travailler en direction du Führer, travailler en direction de Hitler. Si bien que, en dépit des concurrences et des tensions qu'on peut observer entre une institution comme la SS, entre une institution comme la Luftwaffe, l'armée de l'air, hein, qui est dirigée par Göring, entre une institution comme le ministère de la Propagande, là encore, hein, beaucoup de salariés, des milliers de salariés, eh bien, en fait, même s'il y a une concurrence, on décide toujours de travailler par référence à la parole du chef. C'est-à-dire que le Führerprinzip, le principe du chef, aurait eu une réelle influence, mais non pas en termes de décision, mais en termes de mise en conformité des décisions des subalternes. Et donc, on peut dire aujourd'hui, une fois posé ceci, que Ribbentrop, dans ce système-là, il est à la tête d'un ministère à partir de 1938 qui est très bien organisé. C'est un ministère dont il a demandé spécialement lui-même à Himmler d'en faire le ministère modèle de la SS. Il a mis en place un accord pour que tous les fonctionnaires qui rentrent, qui sont recrutés dans les années 30 au sein du ministère des Affaires étrangères, soient formés dans les écoles de SS. Donc, c'est un des ministères qui va être le plus nazifié, en quelque sorte, au niveau de ses fonctionnaires et de ses hauts fonctionnaires. Il va essayer de faire établir une équivalence entre les grades au sein du ministère, les grades au sein de la SS, c'est-à-dire qu'un secrétaire d'État, par exemple, sera au grade de général de division SS. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le ministère des Affaires étrangères. Donc Ribbentrop a une position un peu particulière. Il voudrait que le ministère des Affaires étrangères soit le seul qui s'occupe du rayonnement de l'Allemagne à l'étranger. En réalité, il a plusieurs concurrents qui essayent. Il y a d'abord les organisations du Parti national-socialiste qui ont aussi une branche qui s'occupe de l'étranger. Et donc le secrétaire du Parti, celui qui est le représentant du Führer pour le Parti, Rudolf Hess, a une diplomatie propre. Et de la même manière, l'autre grand personnage du régime, Göring, entretient des relations avec les grandes familles, avec les chefs de gouvernement et fait des voyages à l'étranger. Donc Ribbentrop, en quelque sorte, aimerait avoir un monopole sur la politique étrangère, mais dans une large mesure, il souffre de la concurrence d'autres dignitaires. Mmh. Si bien qu'on peut dire qu'il a une position de pouvoir réelle, mais qu'en même temps, il ne peut pas être totalement autonome dans ses décisions. Sa grande force, au fond, c'est la confiance que lui maintient Hitler.
Alors justement, fut-il l'inventeur de la diplomatie hitlérienne et quel fut son plus grand coup en matière diplomatique? Le pacte germano-soviétique?
C'était pas exactement la politique qu'il aurait souhaité, mais en tout cas, il va la porter. C'est-à-dire que lui, en quelque sorte, aurait souhaité qu'il y ait une alliance avec l'Angleterre de manière à ce qu'il n'y ait pas le risque d'un conflit sur les deux fronts. Mais à partir du moment où cette alliance ne va pas être possible, effectivement, il obtient le pacte germano-soviétique. Ça va permettre en quelque sorte à l'Allemagne d'attaquer sur le front de l'Ouest. Lui aurait préféré une alliance allemande et anglaise contre les Russes. C'était son hypothèse de travail. C'est pour ça que quand il était ambassadeur à Londres, il avait fait toute une démarche pour rendre le régime séduisant comme anticommuniste avant tout, plutôt qu'antidémocratique. Donc ça, c'est une dimension importante. C'est d'ailleurs une dimension qui explique que l'ambassadeur anglais va être celui qui va rompre l'alliance des trois démocraties, c'est-à-dire Angleterre, France et États-Unis, qui, par solidarité, refusaient d'aller dans les congrès du parti nazi. Et le premier à rompre cette solidarité, c'est l'ambassadeur Anderson qui va accepter de se rendre à un congrès du parti nazi, puisqu'il le fait, eh bien François Poncet, l'ambassadeur de France, va être à son tour contraint d'y aller. Donc il faut bien comprendre que cette démarche de séduction de Ribbentrop à l'égard de l'Angleterre a en partie fonctionné. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'il est l'inventeur de la diplomatie allemande? C'est clair que celui qui a pensé la diplomatie, la première étape, c'est-à-dire la diplomatie de l'apaisement, rassuré, c'est Constantin von Neurath, qui est le ministre avant l'arrivée d'Hitler et le ministre après l'arrivée d'Hitler, qui va rester en poste de 33 à 38 et qui est donc celui qui essaye de faire croire que les changements allemands, au fond, correspondent en quelque sorte à un retour naturel de l'Allemagne à sa place dans le concert des nations. Mmh. Au fond, on a trop longtemps frustré l'Allemagne, donc elle ne veut pas, elle n'est pas impérialiste, elle veut juste qu'on lui redonne sa place normale en Europe. Mmh. En revanche, là où Ribbentrop va avoir une part d'innovation extraordinaire, c'est dans la façon dont il va conduire le ministère des Affaires étrangères à être un partenaire essentiel dans la politique d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la politique de collaboration avec les différents gouvernements européens et donc dans leur participation au travail de pillage, de liquidation et de génocide du Troisième Reich.
Alors, précisément, et ça sera le mot de la fin car il nous reste deux minutes, quelle fut la place de Ribbentrop lors du procès de Nuremberg? Quelle fut son implication dans la solution finale?
Alors, il y a deux dimensions. Il y a d'abord le fait que Ribbentrop est accusé d'être un des principaux comploteurs contre la paix. Or, ça, c'est un des crimes qui est défini dans le procès de Nuremberg comme un des crimes capitaux. Or, là-dessus, c'est clair, il a comploté contre la paix. Il est notamment un de ceux qui a organisé tout ce système du secret diplomatique pour arriver à la guerre. Donc ça, c'est une chose claire. La deuxième chose, c'est que son ministère participe activement à la politique génocidaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères à la conférence de Wannsee qui avalise le système de mise en place de la liquidation des Juifs d'Europe avec toute cette industrie, ces usines de mort, hein, comme Auschwitz-Birkenau, où on amène des gens uniquement pour les tuer. Et ça, donc, il en est parfaitement au courant, il l'assume. Il va même écrire des lettres aux différents pays, notamment à l'Italie, en leur demandant de concentrer les Juifs, par exemple, dans la zone d'occupation italienne en Croatie, en leur demandant de concentrer les Juifs pour faire leur déportation à l'Est, ce que les Italiens ne feront pas. Donc il a réellement été un partisan actif, mettant la pression, demandant au gouvernement de Vichy, par exemple, d'envoyer un maximum de déportations de Juifs. Donc il a une activité extrêmement forte en matière de génocide, extrêmement présente. Il est au courant de tout. C'est ce qui explique qu'il ait été condamné à mort et exécuté au terme du procès de Nuremberg.
Fabrice Delmeida, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru chez Perrin, et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau portrait du Troisième Reich. Merci.